Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jérôme Longuet au micro cette semaine pour ce magazine Escale qui revient sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Ce rapport réalisé par 5 agences et fonds de l'ONU recense 821 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde. Le document pointe aussi du doigt le défi de l'obésité qui affecte 672 millions d'habitants de la planète. Pour décrypter ce document, notre invité est Gilbert Ungbo, président du FIDA, le Fonds international de développement agricole. Gilbert Ungbo, bonjour.
Bonjour.
Gilbert Ungbo, vous êtes donc le président du FIDA, le Fonds international de développement agricole. Le FIDA qui fait partie avec d'autres organisations, donc des organisations qui, des Nations Unies, présentent aujourd'hui à New York l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Un état qui est relativement inquiétant. Alors, un des chiffres qui est avancé, notamment, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a une inversion des tendances qui étaient jusque-là observées, qui étaient plutôt positives sur la sous-alimentation. Aujourd'hui, par exemple, on parle de 821 millions de personnes donc, qui souffrent de ce problème. Pourquoi en est-on arrivé là ?
C'est ça la question fondamentale. Comme vous l'avez dit, jusqu'en 2015, les nouvelles étaient positives. Tout allait dans le bon sens, c'est-à-dire la réduction du nombre de malnourris et ceux qui souffrent de la faim au quotidien. Mais depuis 2015, ironie du sort, depuis la signature de l'agenda 2030, on a vu cette inversion. Et initialement, les années 2016 à 2017, nous savons très bien que la question des changements climatiques et la question des conflits étaient vraiment à la base de cette inversion de la tendance. Mais ce que le rapport de cette année pour 2018 va révéler, c'est qu'en plus des changements climatiques et de la fragilité, nous assistons à l'impact de la morosité économique de certains États. Et donc la question même de la croissance économique, de la vitalité économique, de la gouvernance ont un impact négatif sur l'état de la sécurité alimentaire.
Alors justement, vous avez un fonds qui essaie d'impacter, de travailler en amont, d'essayer de faire investir dans ces domaines de l'alimentation. Vous parlez des crises économiques et vous parlez de sûrement ce qu'on voit aussi dans d'autres domaines, y compris l'humanitaire, le problème de la lassitude des donateurs, le fait qu'il y a des priorités, il y a tellement de priorités. Mais la nutrition, quand même, manger, c'est un droit fondamental. Il y a même un rapporteur pour ça. Donc pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à mobiliser ?
Écoutez, aussi triste que ça paraît, lorsqu'on parle de l'agriculture en général, ce n'est pas le domaine qui attire le plus l'attention du public d'abord. Mais lorsqu'on a des crises, lorsqu'on se retrouve en situation humanitaire, effectivement, nous constatons que l'humain, et que ce soit le pays, que ce soit la région, est très sensible là-dessus. C'est pour ça qu'au FIDA, ce que nous disons, c'est qu'il ne faut surtout pas attendre la crise, il ne faut surtout pas attendre l'humanitaire pour investir. Investir, vous savez, il y a eu un rapport de DFID qui démontrait très clairement que pour chaque dollar investi dans la gestion de crise, dans la gestion de l'humanitaire, il aurait suffi peut-être du quart ou du tiers de ce dollar pour éviter justement ces situations humanitaires si on avait investi en amont. Et donc, pour nous, au FIDA, nous mettons le focus sur l'investissement, surtout dans le milieu rural, où est-ce que la pauvreté est plus présente.
Alors justement, le milieu rural, donc ça concerne notamment l'Afrique, donc avec ses 54 pays. Mais il y a aussi quand même l'Amérique du Sud qui également est montrée du doigt dans le sens où il y a une crise alimentaire maintenant importante dans ce continent. Et aussi l'Asie qui pourtant était parmi les continents et il y avait des pays qui étaient relativement prometteurs. Là également, donc ce sont les mêmes phénomènes qui se mettent en place ?
Tout à fait. C'est surtout la situation économique des pays qui n'ont pas de crise ou qui ne souffrent pas de crise ou bien de changement climatique. Il y a certains pays qui souffrent des changements climatiques. Ça ne fait pas la une des journaux, donc le commun des mortels n'est probablement pas au courant, mais quand même, je fais référence par exemple aux intempéries climatiques qui empêchent l'agriculteur, le paysan, à programmer son travail comme il a l'habitude de faire. Ça, déjà, ça a un impact directement sur la production, et non seulement en Amérique latine, mais aussi, comme vous l'avez dit, aussi en Asie. Et ce que nous assistons aussi, parfois, c'est qu'il faut plus de moyens. Il faut plus de moyens, ce qui fait que le coût de production aussi va crescendo. Et puisque le coût de production monte, le paysan a plus de difficultés à avoir accès au marché.
Alors Alors, pour cet état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, il y a 5 agences, je le rappelle, donc, qui font partie de cette recherche. Il y a le FIDA, donc votre fonds, le Fonds international de développement agricole, mais il y a aussi donc, l'OMS, il y a aussi le PAM, il y a aussi l'UNICEF, et puis il y a bien sûr la FAO. Donc, 5 agences qui montrent que, par exemple, le problème de la malnutrition des enfants, mais également le problème donc, de l'anémie chez les femmes enceintes, c'est des choses qui, au-delà de l'investissement en termes agricoles, économiques et autres, c'est l'avenir quand même de l'humanité, c'est quand même les nouvelles générations.
Oui, et effectivement, il faut de plus en plus investir aussi dans la question de la nutrition. C'est pour ça que bon, les collègues, nous-mêmes, au niveau des agences romaines, la FAO, le PAM, le FIDA, et ensuite vous avez parlé de la, non seulement de la FAO et de l'UNICEF, mais bien d'autres agences onusiennes comme non-onusiennes. Il y a le Sound Movement et autres. Nous tous, nous investissons dans la question de la nutrition. Et vous savez, que ce soit au niveau de la question de l'obésité aujourd'hui, ou alors au niveau de la question des enfants de moins de 2 ans, de moins de 5 ans, qui n'arrivent pas à avoir le minimum de protéines nécessaires pour une croissance adéquate, nous savons tous l'impact que ça a au niveau de la formation, de la croissance. Et donc, il est clair que la nutrition, l'action de la nutrition, fait partie des enjeux fondamentaux. C'est pour ça que nous associons énormément la question de la sécurité alimentaire et celle de la nutrition.
Tout ça, c'est sur fond d'un programme de 2015 à 2030, les fameux objectifs de développement durable, les ODD, l'agenda 2030. Comment on peut faire, au-delà de la crise économique et autres, en sorte que des États, 193 États des Nations Unies, se mettent d'accord sur 17 objectifs et en même temps, d'entrée, on n'y arrive pas. Au-delà aussi de l'augmentation de la population.
Comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est une question de décence. La capacité ou la possibilité de l'humain à se nourrir dans la journée, on ne demande pas plus. Et pour nous, l'objectif numéro 2 et le numéro 1 sont tellement essentiels qu'il nous faut investir davantage. Non seulement, il faut aussi dire que lorsque nous parlons d'investissement, ce n'est pas seulement un investissement financier. C'est aussi une question aussi du renforcement des capacités institutionnelles. C'est une question de formation aussi, surtout des jeunes. Et lorsque nous prenons l'Afrique, par exemple, nous savons aujourd'hui, selon les statistiques de la Commission économique africaine, la CEA, l'Afrique importe 70 milliards de produits alimentaires par année. Et nous disons, nous pouvons faire d'une pierre 2, 3 ou 4 coups. On forme les jeunes, on met de la finance à leur disposition et les jeunes n'ont pas besoin, on ne parle pas de millions. Un jeune qui en moyenne reçoit 50 000 dollars déjà peut entreprendre dans l'agriculture, dans le milieu rural ou dans la périphérie, augmenter cette production, accéder au marché et en même temps juguler la question de la migration économique.
Mais justement, la transition est toute trouvée. Il y a le problème des migrations. On constate aujourd'hui, comme si c'était tombé du ciel, qu'il y a des jeunes qui essaient de trouver une solution ailleurs, de façon complètement légitime, essayer de s'expatrier, ce qui pose un problème d'ailleurs de perte aussi des ressources humaines. Comment on n'arrive pas aujourd'hui avec cette capacité d'investissement qui, somme toute, est dérisoire en termes relatifs, à mobiliser, à fixer les populations sur place et à faire que les gens qui ont envie de se battre et de s'en sortir ne sont pas aidés?
Il y a une interrelation avec les différents domaines. Il y a la question des capacités institutionnelles, la question de la gouvernance, il faut le reconnaître, que ce soit gouvernance démocratique comme gouvernance économique. Et il y a la question aussi de la formation des jeunes là-dessus. Ceci étant, écoute-moi, je reviens du Mali, où je suis parti visiter certains de nos projets. Malgré la situation qui est quand même critique, nous le savons, j'étais enthousiasmé par la volonté et la détermination des jeunes à se prendre en charge et à travers les financements et la formation que nous mettons à leur disposition. Vous avez fait un constat qui est très juste, reconnaissant des pays qui sont de part et d'autre de l'équateur. Et donc, quand on sème au sud, on récolte au nord et vice-versa. Donc, ces pays ne devraient même pas connaître le mot faim. Mais les faits sont têtus, et les faits sont là. Et donc, la question est de savoir qu'est-ce que nous devons faire. Et moi, je dis, malgré ces difficultés, malgré la situation qui n'est pas ni rose ni prospère, il nous faut quand même avoir le courage d'investir dans la jeunesse. Et ce qui est très intéressant, l'un des jeunes que nous avons visité lorsque j'étais au Mali, les calculs vite faits, C'est juste un jeune qui a eu un petit financement du FIDA et d'un projet du FIDA, parce que c'était un prêt souverain au gouvernement malien, mais pour financer ces projets que nous supervisons. Et il a développé une entreprise essentiellement de l'élevage de volailles, à peu près de 3500 en tête. Avec ça, des calculs vite faits, il réalise qu'il fait autant de sous, même un peu plus, que ses collègues qui ont migré en France ou en Europe, par exemple. Je prends un autre exemple au Cameroun, où un autre jeune, encore sur un des projets du FIDA, il a tellement eu du succès que nous avons décidé de l'inviter à Rome durant le lancement de notre rapport sur le développement rural. Et nous l'avons invité pour faire des témoignages. Et donc, ce jeune est parti à l'ambassade italienne pour son visa. Évidemment, l'agent d'immigration, dans cette question, ce qui est tout à fait légitime, lui demande « Qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas à Rome pour y rester ?» Alors le jeune, calmement, il nous disait, il a répondu en disant « À mon retour de Rome, j'aimerais vous inviter, vous allez voir le travail que je fais dans ma ferme et vous-même, vous allez me dire si j'ai intérêt à partir de chez moi. »
Justement, donc aujourd'hui, le FIDA, en termes économiques et financiers, ça représente combien ? Combien de sommes pouvez-vous investir sur des micro-projets, sur des projets qui font la différence ?
Voilà, écoutez, nous avons pour notre cycle 2019-2021, nous avons une enveloppe de 3,5 milliards de dollars, dont la moitié, 50% en Afrique, à peu près le tiers en Asie du Sud et du Sud-Est, le reste, c'est l'Amérique latine et l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. Donc, cette année 2019, nous allons à peu près 1,5 milliard. Mais comme nous mettons l'accent seulement, nous n'investissons que dans le milieu rural, que dans les communautés les plus pauvres de ce milieu rural. La taille moyenne de nos projets, c'est de 35 milliards. Mais en même temps, nous allons aller chercher des cofinancements, que ce soit du gouvernement en place, que ce soit d'autres partenaires. Et généralement, pour 1 dollar, en moyenne, nous allons chercher 0,7 jusqu'à 1 autre dollar en cofinancement. Donc, ça permet de doubler la taille de nos activités. En marge de ça, ce que nous avons fait, c'est qu'au mois de février dernier, nous avons lancé ce que nous appelons ABC, ce qui est le Agribusiness Capital, qui est un fonds d'impact. Au lieu de faire des prêts souverains, c'est-à-dire aux États, c'est un fonds d'impact totalement privé de droit luxembourgeois, qui investit directement dans la jeunesse à des montants inférieurs à 1 million de dollars, pouvant aller aussi bas que 50 000 dollars, pour nous permettre d'atteindre justement cette jeunesse dont nous parlons, qui ne cherche pas nécessairement des gros financements, et en même temps, nous les aidons à s'organiser en groupe ou bien en coopérative. Voilà.
Vous aviez un message aujourd'hui avec la présentation de ce rapport à envoyer, à adresser donc aux populations, aux jeunes, un public que vous visez particulièrement, mais aussi à toutes les générations, ça serait quoi ?
D'abord, c'est l'investissement. Et aux décideurs, si je dirais, c'est l'investissement qui est la source, qui va régler le problème. L'investissement dans la durée, dans le long terme, ce n'est pas la gestion de crise qui va régler le problème. Ensuite, maintenant, aux jeunes. Je crois que, particulièrement aux jeunes dans les pays à faible revenu, et où est-ce que généralement l'agriculture contribue encore jusqu'à 20-30% dans le PIB, où est-ce que les deux tiers de la population vivent dans le milieu rural, je dis, ce sont des opportunités en fait. Il nous faut tourner cela en opportunité. Vivez vos rêves au sens où il faut monter vos projets, contacter le FIDA, contacter les autres collègues pour vous aider à fignoler vos projets. Il y a plusieurs ONG aussi que nous finançons qui aident les jeunes à fignoler les projets. Et ensuite, ensemble, il faut rechercher le financement. Je reconnais que ce que fait le FIDA pour moi, c'est une goutte dans un océan, mais il nous faut commencer par là. Et c'est pour ça aussi qu'il nous faut chercher des financements extérieurs pour cette cause.
Gilbert Ongbo, merci. Je rappelle donc que vous êtes le président du FIDA, le Fonds international de développement agricole. Voilà, fin de ce magazine sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Un magazine d'ONU Info préparé et présenté cette semaine par Jérôme Longuet avec la collaboration de Carlos Macias. Un magazine que vous pouvez retrouver avec nos journaux quotidiens, nos vidéos et articles sur Internet et sur les médias sociaux. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.